Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba. Bonsoir à tous.
Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et donc, on retrouvera Amdine Si à Dakar. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Alors Amdine, j'ai failli dire ici aux États-Unis dans l'Ohio. Et donc, je confirme que vous êtes retourné à Dakar. Avec nous aussi, Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine. Et donc, on va essayer de retrouver Amine depuis Casablanca. Également aussi, on va essayer de retrouver Élisée Nkwatine à Boyoukon, au Bénin. Donc, c'est officiel, la CAF a confirmé les nouvelles dates de la CAN 2019, la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019, avec son nouveau format à 24 équipes. Se jouera du 21 juin au 19 juillet 2019, selon l'instance africaine du ballon rond. Le pays hôte égyptien l'avait déjà annoncé hier. La compétition ne se déroulera plus donc du 15 juin au 13 juillet prochain, comme initialement prévu. Le tirage au sort du tournoi, lui, aura lieu le 12 avril prochain, selon Ahmed Majadhe, porte-parole de la Fédération égyptienne de football. Et la CAF aussi confirmé cette information. Alors, Amdine, cette modification des calendriers, dit-on, fait suite aux demandes des fédérations d'Afrique du Nord qui souhaitent ainsi laisser le temps à leurs joueurs de récupérer du jeûne du Ramadan.
Voilà, Yacouba, c'est vrai, l'information est devenue officielle. Hein. La CAN sera repoussée d'une semaine sur demande des pays maghrébins parce qu'il y a le Ramadan. C'est vrai, nous sommes des musulmans, le Ramadan est un mois sacré, mais je pense que dans la vie, il faut savoir planifier, programmer. Et la CAF savait tout ça depuis très longtemps, depuis la fin de la Coupe d'Afrique en 2017. On savait qu'une Coupe d'Afrique allait être organisée en 2019 et ce sera la première Coupe d'Afrique au mois d'été. Donc, lorsqu'on devait caler, on devait prendre tout ça en compte. Cela montre encore une fois l'amateurisme de nos dirigeants. C'est de l'amateurisme pur et dur. On a quand même supprimé la CAN qui devait avoir lieu au Cameroun, finalement c'est en Égypte, finalement c'est décalé d'une semaine. On ne sait plus sur quel pied danser alors qu'on est à quelques mois de cette CAN. On a changé la formule de 6 à 24. Vraiment, c'est de l'amateurisme. Je pense que les dirigeants africains doivent prendre l'exemple des joueurs qui sont des professionnels et quand ils sont dans leur club, on les traite comme des professionnels. S'ils retournent dans leur pays, mais on les traite comme des amateurs, ça crée toujours des problèmes. Je pense que la CAF et le président Amad doivent vraiment tirer les leçons de tout cela pour que la CAF puisse repartir du fond bien, parce que tout ça, ce n'est pas une bonne image du football africain, Yacouba.
Merci bien, Amdine. Alors, Jules, faut-il voir en cette modification une porte ouverte à de futures demandes d'adaptation du calendrier de la CAN par ces prochains pays hôtes, on va dire, selon leurs propres calculs?
Oui, mais c'est qu'il faut venir à la conclusion que avec notre nouveau président de la CAF, il y a déjà une certaine perméabilité et qui autorise tout le monde à tenter et de présenter ses doléances. Donc, en d'autres termes, l'organisation est moins respectée que par le passé. Je rappelle que même si les nostalgiques, disons que certains vont juger qu'on est nostalgique, mais le président Ayatou était respecté par les chefs d'État partout où il passait. Il était comme un chef d'État et donc un interlocuteur valable. Mais je crois que Ahmad, qui a sollicité beaucoup de soutien pour être là où il est facilement manipulable et n'est pas respecté au même niveau. Donc nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises, sûrement. Et ce genre de manipulation ne milite pas pour le respect de la Confédération africaine de football. Et malheureusement, c'est un constat. Il faut le vin est tiré, il faut le boire.
Alors, Thierry, on l'a dit, c'est sur demande des fédérations nord-africaines de football. Est-ce qu'il faut encore parler de manigance de l'Union nord-africaine de football?
Je ne voudrais pas aller jusque-là, Yacouba, même si je me permets de rejoindre mes prédécesseurs qui évoquent justement ce manque de fermeté du comité Ahmad depuis qu'il est à la tête de la Confédération africaine de football. Donc voilà, on savait tout, on connaissait la période du Ramadan. Cela devrait être pour le sérieux du comité d'organisation, pour le sérieux du comité exécutif de la CAF, prise en compte en amont avant de décider des différentes dates, au moment même où la compétition a été attribuée à l'Égypte. On devait discuter de tout cela, mais le faire maintenant, alors qu'on ne sait pas quelles modifications interviendront encore demain ou après-demain, ça ne fait pas preuve de sérieux. Je pense que les dirigeants du football africain devraient montrer un peu plus de sérieux, un peu plus de précautions à prendre avant, des dispositions tenant compte de tous ces paramètres-là avant de se lancer dans l'organisation d'une grande compétition comme celle-là qui est la grande fête du football continental.
Merci bien Thierry. Toujours dans l'actualité du continent, eh bien, respectivement vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF, l'Espérance de Tunis et le Raja Athletic Club de Casablanca se disputeront le trophée le 29 mars prochain. Alors Amdine, enfin on va dire une date pour la Supercoupe d'Afrique.
Normalement, Yacouba, la Super Coupe d'Afrique devait se tenir avant quand même le démarrage de la saison 2019, parce que tout simplement, c'est ce trophée symbolique qui marque quand même le début de cette saison. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, mais comme le dit Laraz, bien vaut tard que jamais, on attend à avoir quand même une belle finale, car c'est deux équipes, deux grandes équipes qui vont quand même disputer cette prestigieuse compétition. Mais je reviens à ce que j'avais dit, il faut quand même beaucoup plus de respect, il faut quand même de la programmation, de la planification pour pouvoir quand même se faire respecter au niveau quand même international, parce que ça ne fait pas sérieux tout ce qui se passe au niveau du sport africain et particulièrement le football. Et je ne pense pas qu'on le mérite, puisque on a des vitrines, des joueurs qui font quand même qui font la fierté du football africain qu'on regarde chaque week-end sur les scènes de télévision européenne. Donc c'est bien de programmer cette finale, mais il faut tirer les leçons pour pouvoir quand même que ça ne se reproduise plus, Yacouba.
Merci bien, Amdine. Et donc, on a maintenant Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir, Amine.
Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous.
Merci de nous rejoindre. Nous parlons justement de cette super coupe CAF qui va finalement se jouer le 29 mars. La CAF a donné bien sûr la date de tenue de cette rencontre. Mais on le rappelle, ça sera hors du continent. Au Qatar, à Doha précisément. Alors, quelle lecture vous faites de, on va dire, cette délocalisation de la Super Coupe d'Afrique hors du continent?
C'est une idée qui vient de sortir, de la part du comité exécutif. Mais l'impression, c'est que, autant par exemple pour les Super Coupes d'Italie, les Super Coupes d'Espagne ou même pour le Trophée des Champions en France, délocaliser une compétition à l'étranger, hors du continent, est valable, autant l'UEFA par exemple ne l'a pas tenté en dehors du vieux continent. Et puis il y a eu le cas de force majeure de la Copa Libertadores avec ce match entre Boca Juniors et River Plate qui a dû se dérouler pour des raisons de sécurité à Madrid. Qu'est-ce qui pousse la CAF à vouloir à tout prix disputer cette compétition hors du continent? Il faut déjà rappeler que le contexte, en tout cas l'organisation de cette Super Coupe d'Afrique depuis qu'il existe, est quand même assez bizarre, puisque l'égalité des chances n'est pas octroyée, puisque c'est le vainqueur de la Ligue des Champions qui la dispute à domicile. Est-ce qu'on ne peut pas l'organiser sur terrain neutre, en dehors du pays des deux clubs qui ont remporté la Coupe de la CAF et la Champions League? Pourquoi avoir choisi le Doha au Qatar? Peut-être pour des raisons mercantiles, peut-être aussi pour donner une meilleure image du football africain, mais il faut aussi rappeler que dans ce genre de circonstances, il y a toute une logistique pour déplacer les supporters. Hors de Tunisie ou du Maroc, il y aura des charters certainement pour pouvoir venir supporter les équipes, mais est-ce que ça pourra remplir le stade où aura lieu la rencontre? C'est des stades à 50 000 personnes. Comment peut-on pouvoir donner une bonne image du football africain avec un stade plein, avec des supporters qui viennent soutenir leurs deux équipes? C'est une énigme à laquelle devra répondre la Confédération africaine, qui n'est pas un contre-pied près, puisque la première date qui avait été annoncée, c'était le 4 février, février. On a eu droit à une deuxième date le 20 février. Aujourd'hui, on a droit à un troisième échéancier, une troisième échéance le 29 mars. C'est pas très sérieux. On va rappeler aussi qu'on parle, la rumeur devrait le confirmer, d'un délai pour l'organisation de la CAN, puisque on passe du 14 ou du 15 juin au 21 juin. C'est pas très sérieux tout ça.
Amine, je rappelle que ce n'est plus une rumeur, hein, la CAF l'a confirmé. Et donc désormais, cette CAN-là va se tenir, elle sera décalée, hein, l'ouverture d'une semaine, et donc non plus le 14 juin, mais plutôt le 21. Mais justement, on disait que c'était à la demande de certaines fédérations, hein, nord-africaines de football, Amine.
À la demande, certainement, puisqu'on parle de fin du mois de Ramadan vers le 3-4 juin, ça devrait permettre à ces sélections de pouvoir se préparer dans de meilleures conditions. Il faut aussi rappeler que le mois de Ramadan dans les pays d'Afrique du Nord, et en particulier dans le pays qui organisera la CAN, c'est des mois de débrayage en termes de rendement. Donc pour pouvoir parer au plus pressé et avoir des installations prêtes, logistiques prêtes, un délai a été exigé. Ce délai d'une semaine sera-t-il suffisant pour que tout soit en place? Il faut aussi rappeler que la CAF est en train de parer au plus pressé avec la nomination d'un coordinateur général qui fera le lien entre l'administration de la Confédération africaine de football et le président Ahmed, une façon pour pouvoir mettre les rouages, des rouages encore plus rapides pour pouvoir faire fonctionner cette CAF qui est en train de cafouiller, et le terme est peut-être bien choisi, une CAF qui a besoin d'un sang neuf, une CAF qui a besoin aujourd'hui de se régénérer. En tout cas, pour ce qui est de la date de l'Égypte, c'est à la demande de certaines fédérations nord-africaines. Elles veulent à tout prix se préparer dans les meilleures conditions, que les joueurs ne puissent pas souffrir de l'impact du mois de Ramadan, parce qu'on rappelle que lors de la dernière Coupe du Monde, une des excuses qui a été trouvée pour justifier le fiasco de l'Égypte, de la Tunisie, du Maroc a été que la compétition a démarré pendant ce mois de jeûne et de recueillement. On espère que avec ce délai d'une semaine, l'égalité des chances entre les équipes d'Afrique du Nord et celles subsahariennes sera garantie et que ce ne sera pas une excuse de plus.
Merci bien, Amine. Vous suivez Sporama, suivez OAfrique. L'émission revient tout de suite. Le week-end à venir sera riche en compétition africaine avec la troisième journée en Ligue des Champions et la première en Coupe CAF. Mais déjà, on en parle. Commençons justement par cette Coupe CAF avec ce groupe A qui ressemble à un mini-championnat marocain. Je vais me retourner vers vous, Amine. Alors, on aura une rencontre fratricide entre le tenant du titre, le Raja Casablanca, et Hassania Dagadi. Alors, Amine, le Raja qui évoluera sans son entraîneur Juan Carlos Garridos, remercié.
Débarqué ce matin, la rumeur couvée depuis la défaite en quart de finale aller de la Coupe arabe des champions à Rabat contre l'équipe de l'Étoile du Sahel 2-0. Il paraît que non seulement c'est le gros magot, puisque 7 millions de dollars sont donnés au club vainqueur, et donc l'attrait financier pour un club qui a des soucis économiques a fait que la décision a été prise, mais aussi que l'entente entre certains cadres de l'équipe et Garrido était arrivée au point de non-retour. Il y a eu quelques incidents lors de la semaine qui a précédé ce match et visiblement les joueurs se sont adressés à la direction en disant qu'ils ne pouvaient plus continuer à collaborer avec Juan Carlos Garrido qui part sur un bilan très honorable, une coupe de la CAF et une coupe du trône. Aujourd'hui c'est son adjoint Youssef Sefri qui assurera l'intérim avec déjà un match de championnat mercredi et puis le match contre le Hassania d'Agadir dimanche à partir de 20h, heure marocaine. Le Hassania d'Agadir qui a subi aussi une défaite en championnat, mais visiblement l'entraîneur Miguel Angel Gamondi a préféré réserver certains de ses cadres en prévision de cette confrontation fratricide. Il s'agit de bien démarrer la phase de groupe, de prendre au maximum un point pour pouvoir conserver toutes ses chances dans un groupe où un représentant du Congo servira d'arbitre entre les trois clubs marocains.
Merci bien, Amine. ce représentant du Congo, c'est Laos, Laes Otto, qui serait opposé à Renaissance Berkane, l'autre club marocain. Un choc aussi, un fracticide dans le groupe B entre deux clubs tunisiens, l'Étoile du Sahel et le CS Sfaxien. Alors, dans l'autre match du groupe B, Enugu du Nigeria et Salitas du Burkina s'affronteront. Dans le groupe C, on aura Zesco United en Cana, tous deux clubs hein, zambiens. Alors, Jules, c'est une affaire de clubs frères hein, ou rivaux, on va dire, toujours dans cette logique-là.
Oui, bien sûr, mais là, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est la philosophie générale de la Coupe de la CAF, c'est de récompenser les meilleurs championnats. Et donc, les meilleurs championnats pour le moment sont ceux qui sont bien organisés, mais aussi ceux qui ont la chance de conserver leurs meilleurs joueurs au pays. Et la Zambie fait partie de cette deuxième catégorie. Et je crois que cela servira à l'équipe nationale pour repérer encore certains talents.
Merci bien, Jules. Alors, Amdine, les Ghanéens d'Asante Kotoko iront hein, chercher, on va dire, un résultat chez les Soudanais d'El Hilal.
Oui, c'est un match équilibré. Hein. Asante Kotoko a été vraiment un très grand club au niveau africain, mais El Hilal aussi, ces derniers temps, se bat bien pour avoir de bons résultats. Donc, je pense que c'est du 50-50. Mais bon, moi, j'ai un petit faible pour Asante Kotoko de commencer parce que tout simplement, depuis très jeune, je considère les Ghanéens comme les Brésiliens d'après Diakoba.
Merci bien, Amdine. Dans le groupe D, les Égyptiens du Zamalek voudront bien commencer hein, face aux Kenyans du Gormaya qui évolueront à domicile. On aura aussi Hussein Dey d'Algérie, Petro Luanda d'Angola. Alors, nous passons à la Ligue des Champions. Ismaili d'Égypte a été disqualifié par la CAF. L'arrêt du match contre le club africain à la suite de jets de projectiles sur la pelouse a justifié cette décision de la commission de discipline de l'instance africaine de football. L'arbitre camerounais Aliou Néan a dû stopper la partie suite à des jets de pierre et de bouteilles d'eau sur son assistant. Le club africain menait 2-1. Alors, Jules, est-ce qu'on pourrait dire que la CAF a eu la main lourde?
Mais non, il n'est jamais question de main lourde quand il faut remettre de l'ordre, surtout sur le plan disciplinaire, parce que et tout commence par des petits fleuves, des petits ruisseaux, et ça finit par un grand fleuve. C'est-à-dire l'insécurité, c'est d'abord des petites manifestations, mais par la suite, il y a des morts d'hommes. Donc je crois que dès qu'il y a le moindre incident qui peut inciter ou encourager des gens à faire la même chose, il faut frapper fort d'entrée de jeu.
Merci bien, Jules. Alors, le groupe C revient désormais à trois équipes, à savoir le CS Constantine, le club africain et le TP Mazembe. Les résultats hein, d'Ismaili sont aussi annulés, conformément aux articles 13 et 18 hein, de ces compétitions-là. Au classement, le club algérien domine avec 6 points devant les Tunisiens et les Congolais qui pointent à 0 unité désormais. Alors, Thierry, le TP Mazembe avait pourtant réussi à prendre des points avec Ismaili. Il faudra encore recommencer.
Ah oui, le compteur est remis à zéro pour le tout-puissant Mazembe Englebert qui doit absolument recommencer, tout recommencer à zéro et aller chercher ces points qui lui permettront de se qualifier dans ce groupe désormais à trois pour la prochaine étape de la compétition. J'ai parlé avec l'entraîneur du tout-puissant Mazembe Englebert qui a dit être conscient et qui a eu à conscientiser ses garçons. Il est vrai qu'il va récupérer au fur et à mesure certains de ses joueurs cadres qui lui ont manqué, notamment lors de la lourde défaite concédée par son équipe en Algérie lors de la deuxième journée. Donc, les Corbeaux qui nourrissent pour ambition d'aller chercher cette coupe sont conscients qu'ils devraient absolument montrer un tout nouveau visage et surtout s'armer véritablement pour aller chercher le ticket qualificatif pour le prochain tour. Et il faut rappeler ici qu'au niveau du championnat national, Mazembe s'est plutôt bien comporté. Les Corbeaux ont terminé en tête à la phase aller du championnat national de la République démocratique du Congo devant l'association sportive Vet Club. Donc mentalement, ils sont assez bombés pour pouvoir aller chercher justement ces points qui leur permettront de faire mieux que ce qu'ils ont montré depuis jusqu'ici dans cette phase des groupes de la Champions League.
Alors, Amdine, on revient sur cette sanction de la CAF. Est-ce qu'on pourrait dire que l'instance africaine a peut-être ainsi donné le ton pour la CAN à venir quand on sait que les violences sont souvent récurrentes dans les stades en Égypte?
Pour une fois, je suis en phase avec les responsables de la CAF, comme le dit l'adage, qui aime bien, châtie bien, parce qu'on le constate, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences au niveau quand même de ces clubs nord-africains. L'année dernière, on en a connu au niveau de l'Égypte. On se rappelle encore de l'histoire des violences à Port Saïd. Donc vraiment,